Les mémoires dans la peau. Une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Nguyen, danseuse et chorégraphe. Bonjour Emeline.
Bonjour Jean-David.
Pour te présenter brièvement, tu te formes en danse contemporaine au Conservatoire National de Région de Nantes et de Lille. En parallèle, tu obtiens le titre de kinésithérapeute en 2004, métier que tu exerceras pendant 7 ans. À cela s'ajoute une curiosité pour d'autres approches de mouvement et de jeu, comme le buto, le clown, le body-mind centering, qui nourrissent tes créations chorégraphiques. En plus de ta compagnie dénommée La Guetteuse, tu collabores entre autres avec les compagnies CAM et Stylistic, mais nous y reviendrons, comme sur les questionnements que tu amènes dans ton travail autour de l'intime, des héritages culturels et des constructions sociales des individus. Tu explores des gestuels et des états de corps alliant fluidité, sensibilité et martialité. Alors pour commencer, Emeline, quel est ton état de corps là ce matin et maintenant? Est-il fluide, sensible ou martial?
Je pense qu'il est fluide.
Il est fluide?
Ouais. Ouais, je pense qu'en arrivant ici, on a rigolé et du coup, ça m'a fluidifié l'ensemble du corps.
Ça, c'est l'ambiance campus Grenoble. Alors donc, à quel moment de ton parcours, l'exploration du corps a-t-elle émergé? Parce qu'on l'a vu, tu étais à la fois kinésithérapeute et danseuse assez tôt. Donc, il y a eu ce parcours un peu, ce double parcours en parallèle. Donc, j'imagine que la question du corps était présente assez tôt.
J'ai commencé à danser très, très jeune. En fait, je pense déjà quand j'étais toute petite... Quand je dansais dans le salon avec ma maman.
Et tu dansais sur quoi alors?
Au départ, voilà, j'avais le goût pour danser simplement sur de la musique comme ça. Et puis rapidement, ma mère m'a proposé d'aller faire des cours de danse. Donc j'ai commencé à danser très jeune, au départ complètement pour un loisir. Et puis, petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai pris conscience que ça prenait une part importante dans ma vie. Et j'ai continué à danser tout le temps. Enfin, j'ai jamais arrêté de danser.
Et donc, tu as commencé par la danse classique, danse contemporaine de suite?
J'ai commencé effectivement par quelques des ateliers d'initiation dansée, mais pour les enfants c'est plutôt assez large comme approche. Et puis après j'ai voulu m'orienter vers la danse classique, donc j'ai fait 2 ans de danse classique. Et après j'ai voulu rentrer au conservatoire, donc je crois que j'avais 10 ou 11 ans. Et en fait quand j'ai voulu rentrer au conservatoire en classique, on m'a réorientée parce que j'étais pas assez, soi-disant, souple, pas assez dans les carcans déjà des danseuses classiques alors que j'avais 10 ans. Et donc, on m'a mis en danse contemporaine. Et en fait, je remercie vraiment les personnes qui ont fait ce choix pour moi parce qu'au final, je pense que j'aurais pas du tout trouvé mon compte dans la danse classique qui est pour moi trop codée par rapport à mon envie d'expression. Dans la danse.
Oui, il y a une certaine forme de rigidité peut-être et qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la fluidité.
Oui, alors il y a une part de fluidité bien sûr dans la danse classique, mais une rigidité de cadre effectivement et d'expression de sa danse, effectivement, oui.
Et alors l'aspect kinésithérapeute, là à quel moment ça a émergé ou est-ce que tu t'es dit que la danse n'était pas faite pour toi en tant que métier? Du coup tu t'es dit c'est un métier proche du corps que je vais exercer ou...
Alors c'est pas moi qui l'ai choisi pour moi, c'est qu'effectivement moi j'ai toujours voulu danser quand j'étais plus jeune et je réussissais aussi assez bien dans le milieu scolaire. Et en fait, pour mes parents, danser, ce n'était pas vraiment un métier. Donc, ils m'ont plutôt orientée vers des métiers qui se rapprochent du corps, comme la médecine ou la kinésithérapie. Et du coup, je me suis orientée dans cette branche-là, bien que je n'étais pas vraiment convaincue par cette branche-là, mais je l'ai faite. J'ai suivi ça. À un moment donné, pendant mes études de kinésithérapie, j'ai dit à mes parents que c'était pas l'endroit que j'avais envie de suivre. Et ils ont insisté, parce que c'était des études dures. Ils ont insisté et en disant qu'après mes études de kinésithérapie, je pourrais changer et faire de la danse, mais qu'au moins j'aurais un diplôme, on va dire, validé par ce qui est entendable par des parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants sur des métiers précaires, dits précaires, parce que pour eux, il n'y avait aucune stabilité dans ce métier. Et surtout, comme ils me voyaient rêver aussi sur des choses autour de la danse, pour eux, ça semblait aussi un rêve. Et du coup, ils sont plutôt de milieu populaire. Et du coup, ils ne voyaient pas trop de voie pour moi là-dedans, un endroit de sécurité financière. Donc, ils m'ont conseillé autre chose. Donc, je suis partie là-dedans. Et donc, j'ai continué jusqu'au bout. Donc, j'ai eu mon diplôme d'État. Et après, j'ai pratiqué kinésithérapie, mais j'ai jamais lâché la danse pendant ma formation de kinésithérapie et même après quand j'ai exercé.
Et donc, à quel moment tu as commencé à entrevoir la danse comme métier, puisque tu exerçais donc en tant que kiné ?
Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas assez épanouie dans mon métier et que bien que j'ai fait mon métier de manière consciencieuse et je me suis occupée de patients, je pense, assez bien, pour moi, c'était un métier qui délaissait la créativité et mon expression. Et je voyais bien que quand j'allais danser le week-end ou quand je prenais des stages longs, des cours, etc., je voyais comment je me sentais vivante à la suite de ça et que je passais trop peu de temps à vivre ça. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu me rapprocher de la danse. Donc, pour ça, comme je ne me sentais pas très légitime, j'avais 28 ans à l'époque.
C'est un âge où on peut s'estimer légitime.
Oui. Non, mais légitime dans le sens où, n'ayant pas fait les grandes études, le grand parcours, la voie royale de la danseuse, j'y allais par précaution, enfin avec précaution dans ce milieu-là, qui est aussi un monde où c'est pas facile d'y rentrer. Et donc je me suis dit, pour me rapprocher de la danse et des danseurs, peut-être que je vais faire des études d'ostéopathie, parce que les danseurs et les danseuses vont souvent voir des ostéopathes. Donc j'ai commencé une formation d'ostéopathie, alors que je voulais danser, hein, je pense intérieurement, mais j'arrivais pas à voir vraiment cette chose évidente. Donc je me suis tournée vers une formation d'ostéopathie. Quand j'ai fait le premier séminaire, je me suis dit, mais je vais encore passer tellement de temps sur un banc d'école à apprendre, à mettre des sous aussi dedans, parce que ça coûte des sous. Et j'ai pensé comme ça, je me suis dit, si tous les sous que j'avais prévu de mettre dans cette formation d'ostéo, tout le temps passé à apprendre autrement une discipline, si je mettais ce temps et cet argent pour la danse, et là ça m'a fait un grand oui. Et du coup, j'ai arrêté bien sûr la formation d'ostéo et je me suis mis à mi-temps en tant que kiné pour faire davantage de stages de danse, me former et passer plus de temps à
te laisser une chance sur ce rêve de devenir danseuse.
Voilà, donc j'ai commencé vraiment à 28 ans à m'impliquer dans le milieu, apprendre moi-même de comment je pouvais vivre de ce métier. Et à partir de 28 ans, j'ai fait de la place dans ma vie. Et assez mystérieusement, il y a plein de choses qui sont venues à moi de manière assez belle. Et voilà.
Nous y reviendrons. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux moments où tu as une sorte de révélation. Tu t'es dit, c'est pas de la kiné que j'ai envie de faire, c'est vraiment de la danse. Puis là, l'ostéo, c'est pareil, tu étais en formation et tu dis, non, c'est vraiment de la danse que j'ai envie de faire une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, tu te laisses l'opportunité de faire ça. Et ça rejoint un petit peu tes spectacles sur la notion peut-être de liberté. Aussi, on va continuer avec une chanson d'Anne Sylvestre, écrite en 1975, interprété par Laetitia Isambert et Nathalie Douma, accompagnée par Yves Morin au piano. Et comme ça, on reviendra sur les différents spectacles que tu as mis en scène. «
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour.
Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous y morcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons.
Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi,
celle qui parle ou qui se tait,
celle qui pleure ou qui est gaie,
c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot,
fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue,
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas.
Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorant.
Forte, vous me combattiez.
Faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimée putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas.
Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues.
La mer à son tour divague, de violence inemployée.
Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés.
Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et si l'ancêtre ou bien l'enfant,
celle qui sait d'où se défend,
c'est Gabriel ou bien Eva,
fille d'amour ou de combat.
Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps,
celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou bien la belle,
fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère
ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
un livre qui parle des sorcières au sens où il parle de la question des chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe à la Renaissance, mais pas dans une perspective historique, parce que je ne suis pas du tout historienne, et ce n'était de toute façon pas mon propos, mais l'idée c'était plutôt d'essayer de voir ce qu'il en reste aujourd'hui dans la vision qu'on se fait des femmes, et en particulier des comportements qui restent perçus comme inacceptables chez les femmes. Parce que j'ai l'impression que c'est un moment, enfin, il y avait une très forte dimension misogyne dans les chasses aux sorcières à l'époque. Et j'ai l'impression que ça a laissé, en tout cas c'est le propos du livre, c'est que ça a laissé des traces très importantes dans nos imaginaires et que c'est des sortes de stéréotypes et de préjugés sur certains types de comportements féminins qui continuent à poser problème, même si c'est heureusement plus dans les mêmes proportions qu'à l'époque. Mais pour vous donner un exemple, j'ai choisi de me concentrer sur trois aspects de la condition des femmes qui faisait problème à l'époque et qui probablement fait toujours problème aujourd'hui. C'est d'une part l'indépendance, parce que on s'est rendu compte que les historiens expliquent que parmi les femmes qui ont été visées par les accusations de sorcellerie à l'époque, il y avait beaucoup de célibataires et beaucoup de veuves. Enfin, elles étaient surreprésentées. C'était celles qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme. Et par ailleurs, j'ai aussi fait de la femme sans enfant, de la femme volontairement sans enfant, une figure de sorcière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait une hantise tout autour de l'imaginaire du sabbat, c'est-à-dire le sabbat comme une fête stérile. Et c'est une époque où les élites politiques et religieuses étaient très préoccupées par l'idée d'une dénatalité, l'idée que les femmes avortent. Enfin, on réprimait aussi beaucoup les avorteuses pour sorcellerie. Donc j'en ai fait une sorte de symbole pour traiter des femmes qui aujourd'hui refusent la maternité et qui restent un peu perçues comme des sortes de sorcières, c'est-à-dire comme des femmes sans cœur, des femmes qui n'aiment pas les enfants, qui leur veulent du mal, etc. Et enfin, la troisième figure à laquelle j'ai choisi de m'intéresser, c'est la vieille femme, parce qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de femmes qui ont été poursuivies pour sorcellerie étaient des vieilles femmes, en fait. Il y en avait aussi des très jeunes, mais il y avait une surreprésentation des vieilles femmes. On en a envoyé au bûcher par centaines. Et il me semblait que c'était l'occasion d'aborder le fait qu'aujourd'hui, la vieillesse reste un problème spécifique pour les femmes. C'est-à-dire que c'est drôle pour personne de vieillir, mais il y a un regard social sur la vieillesse des femmes qui est toujours beaucoup plus dur et beaucoup plus disqualifiant, en fait, que sur celle des hommes.
Nous retrouvons Emeline Nguyen, danseuse et chorégraphe, après un extrait d'une interview de Mona Chollet au sujet de son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Alors Emeline, est-ce un texte qui t'a inspirée pour le spectacle Louvre ?
Oui, bien sûr. D'autres lectures m'ont aussi inspirée, mais celui-ci aussi beaucoup dans son contenu et tout l'apprentissage autour de l'histoire et des résidus qui restent dans nos inconscients collectifs sur ce que doit être une femme aujourd'hui pour être bien vue dans la société. Donc oui, ce livre m'a beaucoup appris et a été aussi le point de départ pour que je puisse aussi me documenter sur des choses plus historiques ou... Enfin, pour déployer en fait ma culture du féminisme à cet endroit-là.
Oui, elle parle particulièrement de trois figures de sorcières, donc de personnes, de femmes qui se sont fait brûler sur les bûchers. Et donc, elle évoque la femme indépendante, la femme sans enfant, la femme âgée. Et même, on pourrait dire en creux aujourd'hui que ça pourrait être la femme... sous contrôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en creux, on pourrait se dire que ce qui est désiré, c'est la femme sous contrôle, la femme qui a un enfant et la femme jeune. Donc c'est peut-être là-dessus ou des choses comme ça qui ont résonné par rapport au spectacle. Ou peut-être l'une des trois ou...
Disons que moi, je me suis... Donc pour Louvre, c'est un spectacle... qui se joue à deux, donc c'est un duo danse et musique live. Et en fait, effectivement, je danse dans ce spectacle, accompagnée de Ottilie B, qui est la musicienne et chanteuse. Et en fait, moi, pour ce travail de recherche, je me suis beaucoup inspirée des figures de sorcières du Moyen-Âge et aussi celle d'aujourd'hui, donc celle que parle Mona Chollet. Et à travers ces figures-là, ça m'a amené aussi un imaginaire pour venir traverser ces figures-là et les incarner au plateau.
Et tu les incarnes à un moment donné avec de la fourrure, même que tu habites les matières organiques en t'habillant notamment de fourrure. Et je trouvais qu'il y avait une certaine forme de sensualité organique qui lie en fait l'être et la matière.
Bah, toujours dans mon travail, je cherche quelque chose qui est organique, dans le sens où j'aime bien quand on ne sait pas si la matière est vivante ou inanimée. On ne sait pas si les corps sont vivants ou inanimés, mais qu'en fait l'ensemble est poreux. Et en fait, dans l'ensemble de mes spectacles en général, toute la scénographie et tous les objets sont animés par une forme de magie, par un souffle. Et du coup, la scénographie est aussi évolutive. Et du coup, la scénographie devient, pour le coup, organique. Et aussi, par rapport à ce spectacle, j'utilise effectivement de la fourrure, mais j'utilise aussi de l'argile, de la glaise, qui fait aussi une autre peau, une autre forme de transformation quand du coup je m'applique cette argile sur le visage notamment. C'est vraiment un endroit du spectacle où ça vient transformer mon état de conscience et mon état aussi physique et avec quelque chose qui m'amène dans une peau vieillie, flétrie aussi. On voit les plis. Ça fait des cheveux blancs aussi par rapport à mes cheveux là qui sont très noirs. Quand je mets de la glaise dans mes cheveux, ben du coup j'ai des cheveux blancs. Donc c'est aussi cette matière là qui agit pendant le spectacle.
Donc tu te transformes un petit peu.
Donc dans ce spectacle, je me transforme. Enfin je tente de me transformer aussi dans l'état. Donc physiquement bien sûr il y a une transformation, mais aussi dans l'état. Et en fait, ce spectacle, je l'ai créé aussi pour comprendre comment moi, je pouvais accéder à ma propre puissance. Et comment moi-même, je pouvais venir transformer des choses de moi-même pour aller au-delà de ce que je pense être.
Est-ce que, donc, il y a des sortes de limites que tu as essayé de repousser dans ce spectacle, ou jouer avec, ou le fait qu'il y ait aussi peut-être une forme d'imprévu, par exemple dans l'argile? Dans ces matières-là, il peut y avoir une forme d'imprévu, donc ça, il y a un petit côté qui challenge sur la scène.
Oui, il y a toujours un endroit d'imprévu dans ces matières-là, parce que ça agit jamais pareil aussi par rapport à comment l'argile est concentrée dans l'eau. Ça fait des dessins différents au sol, etc., même sur ma peau. Oui, il y a de l'aléatoire. Il y a de l'aléatoire, oui.
Et puis tu joues aussi avec du bois, au début avec des bâtons. J'imagine que c'est un peu à un moment donné en référence à la louve en tant que telle, parce qu'il y a de la quadripédie avec.
Oui, il y a de la quadripédie et il y a aussi une forme de... C'est très martial cette danse du début avec les bâtons qui fendent l'air. Il y a le bruit des bâtons qui fendent l'air, il y a effectivement cette quadripédie, mais il y a aussi dans cette figure-là qui peut être pour certaines qui le voient, soit un mélange entre un insecte, un animal, un oiseau, enfin voilà, il y a plein d'images animales en fait dans ce spectacle. Et aussi, au fil du spectacle, on peut voir, c'est un peu comme un conte en fait, il y a plein d'images qui viennent de des choses qui font penser à la nature, des choses qui font penser au règne animal, des choses qui font penser à la terre, des choses qui font penser aux ancêtres. Donc moi, je l'ai vraiment mené sous un versant de conte animal et intemporel. Et pour ça, je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle « La terre qui penche » de Carole Martinez, qui est pour moi un très beau roman qui trace le trajet d'une jeune fille qui vit des choses complètement incroyables, mais qui toujours arrive à se relever avec une puissance très forte à l'intérieur. Et trouver la résilience dans tout ça. Donc, et dans ce roman-là, il y a eu beaucoup de d'images qui me sont venues, des univers de couleurs, des univers sonores qui ont inspiré la pièce.
Ce qui est intéressant, c'est dans l'interview qu'on a entendue de Mona Chollet, c'est qu'elle parle du sabbat. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a inspiré, le sabbat étant une prétendue danse aux côtés du diable. Donc, je ne sais pas, là aussi, je trouvais qu'il y avait un sens du sabbat, de la sorcière, parce qu'il y a un lien entre la danse et de quoi on accuserait les femmes. Donc, est-ce que l'aspect martial que tu évoquais tout à l'heure, il va un peu à l'encontre de ça, à l'encontre de ces imaginaires, peut-être, on va dire, de domination de la femme? Est-ce que l'aspect martial revient, donc en fait on se bat contre quelque chose?
Oui, alors il y a de la martialité comme une démonstration de puissance aussi, de voir une femme au plateau qui est très martiale et qui est très dans sa puissance physique. Donc ça offre aussi une figure dominante. Après, pour moi, quelque chose d'une grande puissance de la femme, c'est l'endroit de sa sensibilité aussi. Et donc, en fait, dans le spectacle, on navigue à la fois dans une martialité et à la fois dans une sensibilité et une acceptation de sa vulnérabilité, qui est aussi une forme de puissance d'accepter sa vulnérabilité. Et donc, du coup, avec Ottilie, qui est la chanteuse, il y a tout un passage autour de l'enveloppement de cette vulnérabilité et un sens de la sororité qui est très important, qui fait partie, pour moi, de puissance de femme qui est la sororité.
C'est vrai qu'Ottilie, on la voit présente, elle est sur scène, donc oui. dans le spectacle, on sent une véritable complicité. Et puis elle va dans ton sens, j'allais dire, parce que ce qu'elle propose est de l'ordre de l'organique. Il y a de la voix, il y a des cris, il y a des sons de la nature qui sont aussi présents. Donc comment est ton travail avec elle, surtout par rapport à cette pièce?
Alors déjà, c'est un travail musical qui s'est cofondé en parallèle de l'écriture du spectacle. Donc ça a été une collaboration tout au long de la création. Ottilie, elle travaille beaucoup avec des sons organiques qu'elle transforme, donc des sons qu'elle enregistre, qui sont des sons réels et qui après qu'elle transforme par ordinateur et qu'elle mélange à sa voix et son chant. Et du coup, ça a été un dialogue permanent entre sa création et la mienne, comment les deux vont se rencontrer. Moi, j'avais une grande envie qu'elle vienne aussi au plateau dans sa présence, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une présence forte au plateau aussi, qu'elle ne soit pas juste accompagnatrice de la danse, mais aussi prendre part complètement à l'endroit de sa présence scénique et de rentrer au plateau.
Et pour les auditeurs, on va écouter un extrait de la musique sur scène.
Amen.
Les Mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Alors moi aujourd'hui je ne la vis plus. Donc, mais... Oh, ça ne me manque pas. Je crois pas que ça m'a empêché de faire des choses vraiment. Mais je suis privilégiée. Très privilégiée. Parfois, peut-être, elle me manque dans le sens où j'aimais bien la façon dont ça rythmait, comme des saisons, en fait.
Je me rappelle très bien d'une fille en CM2 qui a eu ses règles pour la première fois et qui a un pantalon blanc. Je pense qu'elle a passé une très mauvaise journée, alors qu'il n'y aurait pas eu, qu'il n'y avait pas lieu d'être, quoi.
Je me rappelle aussi, quand j'étais au primaire, j'ai une copine qui a eu ses règles beaucoup plus tôt, du coup. Je lui avais prêté une salopette, et elle avait eu ses règles, elle avait taché toute la salopette pendant une colonie de vacances. Et on l'avait lavé ensemble. Et je me dis, c'est un truc que probablement après, une fois que tu grandis et que tu intègres que c'est quelque chose de censé être sale ou bah, jamais t'iras laver les règles de quelqu'un d'autre, quoi.
Je rêve que les règles dans le monde, que ça ne soit plus un objet de discrimination en tout cas, ni un objet de domination et de domination. Ouais, je rêve de ça. Que ça soit reconnu comme une puissance. Pas une puissance qui écrase, mais une puissance.
Comment tu expliquerais les règles à un enfant de 5 ans? Expliquer que c'est une pochette. C'est une pochette de sang, de couleur rouge, que la femme stocke pour qu'elle se prépare à avoir un bébé. Vous savez que c'est cette matière, c'est comme si on stocke un peu d'eau pour qu'on arrose notre jardin.
Nous retrouvons Emeline Nguyen, danseuse et chorégraphe, directrice de la compagnie La Guetteuse. Emeline, pourrais-tu nous dire d'où sont tirés ces témoignages ?
Oui, alors du coup, ces témoignages sont issus du spectacle Rouge Carmin, qui est du coup la pièce qui a suivi Louve, qui parle du tabou des règles. Et en fait, à la suite, pendant la recherche... de Louve, j'ai lu donc beaucoup de livres féministes et d'autres livres qui parlent de la condition des femmes, et je suis tombée sur le livre qui s'appelle « Ceci est mon sang » d'Élise Thiébaud, qui est un livre qui parle de l'histoire des menstruations de l'Antiquité à aujourd'hui. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant et très éclairant sur... ce sujet-là et ce pourquoi aujourd'hui il y a cette vision du sang des femmes qui peut avoir des connotations d'impureté, de saleté, de dégoût. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, c'est un sujet qui est vécu par la moitié de l'humanité et on parle vraiment pas de ce sujet-là, c'est très tabou. Ou alors si on en parle, on en ricane. Enfin, j'ai pensé à ça et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai envie de faire un spectacle là-dessus et de poser vraiment le sujet sur la table. Et donc j'en ai fait un spectacle qui s'appelle donc Rouge Carmin, qui est un spectacle qui est sorti en début 2022. Et donc le spectacle commence par une série de témoignages de personnes donc, qui ont été enregistrées. Garçons et filles qui sont passés lors d'un dispositif qui s'appelle la Tente Rouge, qu'on a inventé en parallèle de la création du spectacle Rouge Carmin, qui est donc la Tente Rouge, c'est une tente dans laquelle on rentre et où il y a tout un dispositif de jeu avec des cartes à tirer et des cartes à créer pour finalement faire parler les personnes qui rentrent sous la tente de ce sujet-là, de comment ils vivent cette thématique-là chez eux, dans leur éducation, au travail. Enfin, il y a plein de petites cartes comme ça à tirer, comme effectivement, comme on entend dans le témoignage, comment tu expliquerais les règles à un enfant de 5 ans. Mais il y a aussi des cartes comme « Est-ce que tu penses que les règles sont un sujet tabou, ou alors quitte à expliquer la première fois comment ça fonctionnait. Et donc c'est plein de petites cartes comme ça qui sont tirées et qui invitent le public à libérer la parole autour de ce sujet.
Est-ce que certains témoignages t'ont plus marqué que d'autres ?
Alors, ben, du coup, cette tante rouge, elle a voyagé dans les collèges, dans les lycées, au campus d'ailleurs. Alors, pas celui-ci, celui du lac du Bourget, mais donc elle a circulé un peu partout. Et c'est assez... je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est un témoignage qui m'a touchée, mais plutôt finalement cette multitude de personnes qui se sont exprimées sur des sujets intimes et qui parfois me livrer qu'ils n'avaient jamais raconté ça et jamais eu l'occasion de raconter ça. Et je trouve ça super, en fait, de pouvoir libérer la parole sur ce sujet-là qui est vécu par la moitié de
l'humanité
quand même. Et du coup, d'entendre plein d'histoires, plein d'histoires. Donc, j'ai eu la chance d'entendre plein d'histoires autour de ça.
J'ai le sentiment qu'il y a une forme de réappropriation de ce corps-là face aux règles, puisque, comme tu le dis, c'est tabou. Voilà, c'est tabou et puis dépréciatif. Souvent, le discours est dépréciatif par rapport à ça. Donc, j'ai un peu ce sentiment de faire collectif. Et en fait, il y a une sorte de vision presque documentariste avec tous ces recueils de témoignages et cette volonté de faire collectif, comme de mettre sur le devant de la scène, finalement, quelque chose qui était un peu tabou. Est-ce que c'était ta volonté, via ce spectacle, de mettre en lumière quelque chose qui était considéré comme plutôt négatif ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'avais une vision très claire de ce que j'avais envie de mettre en scène. J'avais envie, donc, partant du postulat que ce sang est considéré comme sale, j'avais envie, au contraire, de faire une scénographie qui est extrêmement esthétique et très graphique dans l'espace. Et donc, on a construit toute une scénographie de fils de laine rouge qui tombe du plafond, enfin du plafond du théâtre. Et du coup, il y a un effet esthétique qui est assez réussi et qui donne beaucoup de beauté, en fait, à ce sujet-là. J'ai pas du tout envie que ce soit... que les danseuses, qui est du sang. Enfin, je veux pas du tout envie que ce soit gore, quoi. Mais plutôt, au contraire, d'une extrême finesse et d'une extrême beauté dans ce qui apparaît à l'œil du point de vue de la scénographie. Donc ça, c'était très clair pour moi. Et aussi, bien sûr, j'avais envie de parler de ce sujet-là, mais aussi de verbaliser, de faire verbaliser. C'est-à-dire que pour moi, ça suffisait pas de faire un spectacle de danse sur les menstruations. J'avais aussi envie de libérer la parole autour de ça, d'où la création de cette tente rouge pour entrer dedans et aussi pouvoir jouer aussi de ça de manière ludique.
Et est-ce que ça donne lieu à des discussions après les spectacles entre les spectateurs, justement, peut-être même certaines viennent te voir, ou certains peut-être même des hommes.
Bah moi j'ai entendu plutôt des discours sur des hommes qui sont venus voir ce spectacle et qui disaient après qui parlaient avec leur compagne de comment c'était pour elle, enfin qu'en fait du coup
ça instaurait le dialogue.
C'est on voit ce spectacle là sur le tabou des règles et après ça fait se poser la question, ah tiens, bah comment moi je vis ça, comment je le partage avec les autres ou pas. Et ou comment je peux poser la question, en fait, tout simplement à mes proches qui ont leurs règles, de sentir comment c'est pour elles, mais tout simplement, en fait, comme si c'était un sujet normal, en fait. C'est un sujet normal, c'est pas notre quotidien, c'est mensuel, mais ça fait partie de notre vie, et pourquoi le cacher, en fait.
À noter que, autant pour Louvre, t'es la seule danseuse, autant justement pour ce spectacle Rouge Carmin, vous êtes quatre, donc tu es sur scène avec trois autres danseuses. Mm-hmm. Donc est-ce que c'était aussi dans cette volonté de faire plus collectif ? Est-ce que ça traduit cette volonté de faire plus collectif ?
Collectif dans le sens création. Alors, donc moi, je suis quand même la locomotive du projet et donc je suis à l'initiative de la création. Après... Pour les danseuses, elles sont aussi autrices de leur propre danse, donc elles ont des solos dans lesquels elles peuvent aussi complètement s'exprimer dans leur, dans leur créativité. Et par ailleurs, j'avais envie de souligner que ce projet-là, je l'ai construit aussi avec une équipe 100% féminine, ce qui est très rare dans un projet de spectacle où souvent l'équipe technique, l'équipe de scénographie, voire la musique est... sont faits par des hommes, et j'avais envie vraiment de, pour ce sujet-là en particulier, d'une équipe 100% féminine. Donc il y a la scénographe qui est une femme, la créatrice lumière qui est une femme, et la compositrice qui est une femme, qui est donc Ottilie B, qui était la même musicienne que Louve.
Oui. J'imaginais qu'il y avait une volonté en tout cas de transmission, puisque les trois autres danseuses sont aussi plus jeunes, puisqu'elles ont à peu près la vingtaine, et du coup, qu'il y ait plusieurs femmes et plus jeunes, j'avais à la fois le sentiment qu'il y a une volonté de transmission et de sororité.
Oui, oui, complètement. Bah, ça invite à ça dans le spectacle. Il y a vraiment cette envie de rassemblement de ces quatre femmes d'un endroit de sororité qui invite du coup l'ensemble des femmes de l'humanité à se rassembler dans une sororité autour de ce sujet-là.
Les Mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Espoir, espoir. Je peux voir la lueur, mais pour l'heure, je vis dans le noir. Je sens le poids de la peur, à la fois au bout de mes doigts, au fond de mes os qui me broient, le cœur. Je sens le froid de la sueur, fleuve glacé le long de mon dos qui ploie sous le poids de la peur, à la fois au bout de mes doigts, au fond de mes os qui me broient, le cœur, je sens le froid de la sueur, fleuve glacé le long de mon dos qui ploie sous le poids de la peur, l'effroi me colle à la peau. J'ai l'odeur d'une proie, des fois c'est trop étroit, je me cogne contre des murs de papier froissé. Marécage bureaucratique, je tourne en rond dans ma cage thoracique. Prisonnier de mes cellules, j'ai pourtant vu peu d'êtres humains, peut-être une main tendue. J'ai pourtant vu peu d'êtres humains, peut-être une main tendue. J'ai tracé ces vers, passé les déserts, traversé les mers, et aujourd'hui je me suis rendu. Je me suis rendu à la préfecture, commandé un papier tamponné qui me rendra la propriété de mon corps. Liberté de circuler, liberté de coaguler. Sinon, je recevrai une OQTF, obligation de quitter ta forme humaine. Je ne m'appartiens plus. Peau, céder ma peau, céder mon âme vendue. Quelqu'un me détient puisque je suis détenu. Livré aux enchères et de sang. Pour la police aux frontières, ma peau, mes os, mes poumons, mes tendons. Pour les cabinets du ministère, mon crâne, mes organes, ma tête, mon squelette. Et pour les services sociaux, vous désirez un morceau en particulier? Immatriculé. Mon corps est un langage articulé, mais que personne n'écoute. Et ma foi se meurt. Plus vous êtes sourd, et plus je suis lourd du poids de la peur.
Nous venons d'écouter un slam de Mehdi Krüger, qui fait partie intégrante du spectacle « Nos mouvements incessants ». Un spectacle d'Abou Ngom de la compagnie Stylistique dans laquelle la danse et la poésie s'entremêlent autour de la thématique de l'enfermement en soi ou au sein de la société et la quête de la liberté pour s'en extraire. Alors dans ce spectacle, Emeline Nguyen, tu laisses ton habit de chorégraphe pour celui de danseuse-interprète. Comment s'opère ce changement ?
C'est vrai que du coup, je navigue entre être... porteuse de projet en tant que chorégraphe pour la compagnie La Guetteuse et danseuse-interprète pour d'autres compagnies, et là en l'occurrence la compagnie Stylistique. Pour naviguer entre les deux, et ben, y a quelque chose de... qui est assez nourrissant, parce que être danseur-interprète, danseuse-interprète pour une compagnie, bah, ça me permet de voir aussi moi... comment je fais en tant que chorégraphe avec mes danseurs et danseuses interprètes, comment je fais et comment moi aussi je me laisse faire par rapport à Abdou, qui est chorégraphe sur ce projet. Et en fait, c'est très confortable d'être interprète. C'est-à-dire que moi, je suis toujours confrontée au choix artistique, à prendre des décisions, à faire tout ce qui ne se voit pas, les budgets, les payes. Enfin, on a des gens qui font ça, mais de penser tout ça, de penser tout pour le projet. Et là, quand je vais bosser avec la compagnie Stylistique, il y a vraiment quelque chose de très reposant, où juste je suis au service du projet et en tant que danseuse. Et je ne suis pas multicasquette comme je suis en tant que chorégraphe, la guetteuse. C'est énorme la quantité de travail. Et c'est presque 80 fois plus que ce qu'on voit dans les spectacles, qui est juste la danse.
Alors que ce soit dans Rouge Carmin, avec les témoignages à propos des règles, les livres de Mona Chollet ou d'Élise Thiébaud à propos de la condition féminine, ou le slam que nous venons d'entendre, c'est la parole qui prédomine. Alors, est-ce un choix délibéré de faire référence à la parole vécue ? J'ai l'impression que c'est une sorte de constance chez toi.
Par rapport à la compagnie Stylistique, je ne peux pas dire que c'est un choix puisque je suis danseuse-interprète. Donc ça, c'est les choix d'Abdou. Je peux juste parler de moi, mon travail en tant que chorégraphe de la guetteuse. Je dirais, j'aime bien l'usage des mots quand ils prennent pas toute la place. Dans le sens où il y a la poésie du corps aussi qui raconte beaucoup. et qui raconte des fois ce qui ne peut pas être dit en mots. Donc c'est intéressant d'utiliser les mots, mais pas pour surligner trop, ou pas pour trop rendre narratif. Enfin, je pense que c'est un fin mélange, un fin dosage.
Sur lequel tu travailles en permanence et sur, que tu questionnes, toi, par rapport à tes propres créations.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, dans Rouge Carmin, il y a les témoignages qui sont au début pendant 3 minutes et après, il y a 1 heure de danse, sans parole. Donc, ils ne sont pas non plus au cœur en permanence dans la... Dans la...
Et que ça soit donc pour Rouge Carmin ou La Louve, c'est toujours des thématiques sur la féminité. Et ici, le spectacle aborde l'exil, l'immigration, la liberté. Est-ce que tu es sensible à ces thématiques-là ?
Particulièrement parce que donc moi je suis métisse d'un donc origine vietnamienne par mon papa qui est venu en France il y a 20 ans juste avant la guerre du Vietnam et donc du coup la thématique de l'exil bah voilà c'est une histoire familiale donc oui je suis assez sensible à ces thématiques là oui bien sûr ouais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de collaborer avec Abdou, parce que ces thématiques me parlaient aussi.
Les Mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Nous arrivons au terme de cette émission, Emeline Nguyen. Pourrais-tu nous donner ta recette pour habiter ton corps ? Ou le réinvestir quand tu te sens déconnecté.
Une des choses qui me vient, c'est pour habiter son corps, c'est de sentir ses appuis. C'est-à-dire tout simplement savoir avec quoi je suis en contact, avec quoi mes pieds sont en contact. Là, même si vous écoutez ma voix, vous qui êtes de l'autre côté du poste de la radio, où sont vos pieds ? Ils sont en contact avec quoi ? Est-ce que je peux prendre appui sur ces pieds-là ? Est-ce que je peux prendre appui sur le dossier sur lequel je suis ? D'avoir conscience de ces appuis-là et de le prendre vraiment comme un support.
Merci Emeline d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir de te revoir sur un parquet de studio de danse ou sur scène. À ce propos, vous pouvez retrouver les dates des spectacles et des ateliers de danse que tu proposes sur le site internet de la compagnie La Guiteuse. À bientôt, Emeline.
À bientôt, Jean-David.
Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un mois. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'émission où vous trouverez toutes les informations sur les invités passés et à venir. D'ici là, portez-vous bien, caresses et bis à l'œil.